lever les yeux. Voici la vraie lumière. Voilà.
C'est vrai que c'est un sommet dans l'évangile. Et dans ce temps de carême, c'est un moment très très important, le rendez-vous du deuxième dimanche du carême. Je ne sais pas si vous savez comment les lectures sont organisées dans le temps du carême. Il y a une grande oubliée qui est la première lecture, donc je vais essayer de ne pas l'oublier. Et puis ensuite, il y a la logique des évangiles, ils sont très bien connus. C'est pas du tout comme d'habitude. Et la deuxième lecture, d'habitude, elle est suivie, mais là, non, des fois, elle éclaire la première, des fois, elle éclaire l'évangile, comme aujourd'hui, tout entier tourné vers la lumière de la transfiguration. La semaine dernière, ça a éclairé la première lecture. C'est le choix des lectures pendant le carême. Dans la première lecture, on nous fait faire quelque chose de très utile, qui est un parcours dans l'Ancien Testament. Voilà. La semaine dernière, c'est les origines, et la jeunesse de le péché originel. Ensuite, la deuxième semaine, Abraham. La troisième semaine, Moïse. La quatrième semaine, l'entrée dans la terre promise. La cinquième semaine, un des prophètes. Pourquoi ? Parce que l'Ancien Testament est un mal-aimé chez les chrétiens. Voilà. On ne le lit pas beaucoup, quoi. On dit, c'est gros, c'est difficile, puis c'est ancien, donc... voilà, c'est un problème. C'est une des racines de l'antisémitisme, nous le savons bien. C'est une erreur spirituelle majeure. Parce que Jésus était pétri de cette parole et nous, on la laisserait de côté. Alors qu'on veut être ses disciples et être son corps. Comment lui peut-il être imbibé tout le temps? Tenez, la semaine dernière, quand il envoyait le diable dans ses buts-là, trois fois de suite, il lui a répondu avec le Deutéronome qu'il connaissait par cœur, quoi. À la seconde même, quand le diable arrive, il lui envoie une phrase du Deutéronome, arrière Satan, ça y est. Donc lui, il a une connaissance de la Bible qui est constante et nous... qui voulons lui ressembler en plus, qui sommes chrétiens parce qu'il est Christ, on ne le lit jamais. C'est un vrai problème. Et c'est la même chose qui nous prépare à la grande nuit pascale. Vous savez, dans la nuit pascale, alors on va relire la Genèse, l'Exode, etc. On fait tout un parcours, il y a 9 lectures. Rares sont les paroisses qui les font toutes. Je ne dis pas qu'il faut les faire toutes d'ailleurs, mais enfin, il y en a quelques-unes qui sont obligatoires. Mais on montre bien que Jésus n'est pas arrivé de nulle part. Et que tout ce tissu, cette parole, la force de cette parole, était sa chair et son sang, était sa prière quotidienne. Et que donc, on ne peut pas le regarder de haut, quoi. C'est vraiment une des grandes difficultés chez les chrétiens depuis toujours. On ne peut pas dire que l'Église ne nous rappelle pas l'attention sur ce sujet. C'est pour ça que moi, j'aime bien dire aux chrétiens, donc je vous le dis à vous aussi, chaque année pendant le carême, fixez-vous de lire un livre de l'Ancien Testament que vous n'avez jamais lu. Ou d'en relire un que vous avez déjà lu. Alors, si vous n'êtes pas très courageux, il y en a qui font 2 chapitres, ça peut aller, quoi. Il y en a qui en font 66. Vous choisissez, puis vous dites, en fait, Ézéchiel, j'y connais rien, ou en fait, le Deutéronome, j'ai jamais lu, vous voyez. Et pour que vraiment, ça reste au fond de nous-mêmes comme une petite musique qui chantait tout le temps dans le cœur de Jésus et dont il serait triste qu'elle soit absente d'une autre. Voilà, donc aujourd'hui, on avait Abraham, et la semaine prochaine, on aura Moïse, et c'est très bien comme ça, et... C'est un beau rappel, quoi, utile. L'essentiel des lectures du carême, bien sûr, est sur les évangiles. Et là, au fond, là, on est dans la grande année. Vous savez, l'année où on est dans Saint Matthieu, c'est la grande année. En fait, on ne lira pas du Saint Matthieu, d'ailleurs. Et donc, on a les grands évangiles pour les catéchumènes. Mais les 2 premières semaines, c'est toujours le même rendez-vous. Les ténèbres et la lumière. Donc, la semaine dernière... On était devant le truc impensable, inregardable, incontemplable, qui est Jésus devant le démon, quoi. Impensable. Et donc, le fait qu'on nous présente au début du carême cette absurdité du vendredi saint, en fait. Comment peut-on faire tant de mal à quelqu'un qui a fait tant de bien? Comment peut-on avoir en face celui qui est la vie et celui qui est un menteur et un homicide dès l'origine? Donc, le drame absolu, l'absurdité, le non-sens... du vendredi saint sont présents dans le premier dimanche du carême avec celui dont vous vous souvenez qu'on a lu la semaine dernière. Et le second dimanche du carême, on t'emmène à Pâques. Regarde, la lumière sera victorieuse. Monte sur la montagne, levez les yeux, voici la vraie lumière. On est déjà au matin de Pâques. Un petit peu comme pour nous baliser le terrain, vous voyez. C'est-à-dire, vous avancez vers la Pâque du Christ avec le vendredi saint et le dimanche de Pâques, alors je vous mets à cet endroit incroyable où Jésus se trouve dans les ténèbres les plus affreuses, le diable le vendredi saint, et je vous mets au sommet de la montagne où vous voyez cette lumière victorieuse. Il les a emmenés en haut de la montagne, les trois privilégiés, Pierre, Jacques, Jean, peut-être pour leur donner le courage, et en espérant qu'ils seraient fidèles dans les heures de la passion, et on sait comment ils l'ont été, quoi. Si dure était l'épreuve, largement au-dessus de leur force et des nôtres. Enfin, c'est bien, voilà. Et ainsi, quand on a vécu les deux premiers dimanches du carême, ben voilà, notre carême, il est posé, on comprend, c'est bien clair. J'avance vers le vendredi saint, j'avance vers la lumière de Pâques, et Seigneur, je serai pas à la hauteur, parce qu'ils ont tous fui, etc. Mais je te promets que j'essaierai de te suivre le plus près possible, le plus profondément possible. Tu me connais, et tu m'aideras. Je sais où je vais, voilà, le chemin est balisé. Ensuite, donc, dans cette année, nous avons la chance, c'est pour ça qu'il faut prier vraiment ardemment pour les catéchumènes, d'avoir les trois grands scrutins avec les trois grands évangiles du carême. Ils sont tellement importants que dans les autres années, on peut laisser tomber les autres et reprendre cela, chaque année. C'est vraiment des évangiles qu'on doit connaître par cœur, quoi, qui vraiment structurent la vie chrétienne. Donc, vous avez d'abord la Samaritaine, où en fait, en un quart d'heure de conversation, il traverse toute son humanité. J'ai soif, il fait chaud, c'est notre corps, j'ai faim. Après toute sa vie sociale, politique, humaine et affective, toi, t'es un juif, moi, je suis une samaritaine, on se parle pas, etc. Puis, va me chercher ton mari, j'ai pas de mari, t'as raison, parce que t'en as six, c'est ton vrai époux, c'est moi, dit Jésus, en fait, voyez. Le vrai époux, c'est lui. Et puis après, comment on fait pour adorer en esprit, en vérité. Bref, en un quart d'heure de conversation, on a l'impression qu'il lui a tout dit. Bon, enfin, je ne vais pas vous raconter tous les évangiles. Et la semaine d'après, l'aveugle-né, après Lazare. Ils sont de plus en plus grands. Tout un chapitre, Lazare, très long, Jean 11. Et on arrive à Pâques. Voilà. Donc aujourd'hui, nous montons sur la montagne. Est-ce que nous faisons partie des trois? Souvent, j'ai entendu des prédicateurs, nous allons monter avec Jésus, etc. Alors moi, j'ose pas dire ça, hein, parce qu'il a des milliers de disciples. Dans les milliers de disciples, il a 12 apôtres, et dans les 12, il n'en choisit que 3. Ça m'étonnerait que je fasse partie du lot. Voilà. Enfin, ça fait rien, c'est écrit dans l'évangile. Donc de toute façon, il faut que je regarde et que j'écoute cet évangile de près. Je les connais bien, ceux-là. Ce sont ceux-là qui seront à Gethsémanie, à l'heure suprême. Ce sont ceux-là qui ont été emmenés à la résurrection de la fille de Jaïr. Enfin... vraiment, c'est dommage, parce que d'habitude, ils sont par trois groupes de quatre, on dit, bah, et André, alors, le quatrième de la première bande, pourquoi il est pas là? Bah, il est pas là, voilà. Donc, il y a Pierre, Jacques et Jean qui partent. Pierre, c'est toujours lui qui parle, il n'y a que lui qui parle, d'ailleurs, en général, quand on pose des questions et qui répond, des fois à côté de la plaque. Et là, il dit quelque chose de très beau. Et il dit une phrase que je trouve, qui est dans les trois évangiles, d'ailleurs, elle est dans tous les trois. Seigneur, il est heureux que nous soyons ici, voilà. C'est splendide. Non pas qu'il sera à la hauteur après ce qu'il a dit, mais souvent il le dit avec un cœur pur. Nous savons ses faiblesses, nous connaissons ses trahisons, mais elle n'enlève rien à la pureté, à la simplicité, à l'aspect très nature, disons, de ce personnage. Et il dit quelque chose à quoi je crois de tout cœur, Seigneur. Si jamais j'étais devant ta lumière, il n'y a pas de bonheur plus grand que cela. Comment ça se fait que je sois à cet endroit? Cet évangile est évidemment un sommet, non pas seulement parce qu'on est sur une haute montagne, mais parce que vous savez que Jésus a fait des quantités de miracles. Avant, il y a les deux multiplications des pains, il y a les lépreux, il y a les démons qui ont été chassés. Enfin, il y en a eu des quantités. Après Matthieu 17, il n'y en aura plus tellement. Hein. La période glorieuse, la période lumière, la période des miracles, la période de tout ce qui s'est passé au nord, autour du lac, avec la tempête apaisée, avec dans la Galilée, ben c'est fini. Et après, comme je le disais tout à l'heure en citant dans Luc, son visage se durcit, il durcit sa face, ce qu'on traduit faiblement par résolument, et il part vers sa passion. Voilà. On sait que c'est le tournant décisif. L'heure de gloire et l'heure de lumière, c'est fini. Maintenant, j'avance vers ma passion. Qu'est-ce qui voudrait me suivre, quoi? Et on voit bien qu'ici, on est au moment brûlant de sa passion. Il y a trois événements qui sont à rapprocher sur le moment de l'Annonciation, où l'Esprit Saint vient. Et il va couvrir de son ombre la Vierge Marie et le Messie va être donné. Ensuite, l'Esprit Saint vient au début de son ministère dans le baptême au bord du Jourdain, sous la forme d'une colombe. Et on entend, celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Et la troisième fois, l'Esprit Saint qui est là et qui fait que Jésus... On pourrait dire que... Il rend Jésus incandescent. L'Esprit Saint, moi je le vois comme un feu qui est à l'intérieur de Jésus. Et on a l'impression que Jésus prend feu, quoi, comme le soleil. Et donc, on voit que ce sont trois manifestations trinitaires. Le don du Père qui donne son Fils par l'Esprit Saint dans la chair de la Vierge Marie, ils sont là, tous les trois. Et au baptême aussi, on les voit tous les trois. La voix du Père, l'Esprit Saint comme une colombe. Et Jésus qui sort pour se lancer dans son ministère. Et ici aussi, la voix du Père, l'Esprit Saint qui met le feu. Et le visage de Jésus incandescent et transfiguré. Ce sont vraiment des points majeurs, majeurs. On le comprend avec... l'incarnation qui correspondra à notre baptême, le bord du Jourdain qui correspond quand il se lance dans sa mission à notre confirmation. Et ça qui nous plonge dans sa Pâque. Parce que quand je suis un disciple de Jésus, ben, faut que j'entre dans sa Pâque. C'est d'ailleurs le chemin de mon carême. C'est pour ça qu'on m'y prépare. Alors il va mettre le feu en toi, voilà. Bon, il y a une très grande lumière qui va arriver, mais fais attention parce que le feu, ça brûle. Ça brûle, mais ça ne consume pas. On le sait depuis le buisson ardent. Mais enfin, quand même, ça brûle. C'est pour ça qu'ils partiront tous, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas envie d'être brûlés. Et nous, sans doute comme eux, mais enfin, c'est bien que nous le sachions et que nous avancions vers ce rendez-vous. Et donc, la phrase de Pierre est naïve, un peu fausse, mais très belle et très vraie à la fois. Maître, il est heureux qu'on vive le deuxième dimanche du carême chaque année et que tu nous donnes le rendez-vous de la transfiguration. Cette fête colossale, par exemple pour tous les chrétiens d'Orient, et il faut le dire malheureusement oublié chez les chrétiens d'Occident. C'est le 6 août, les gens sont à la plage, quoi. Et on ne fait pas attention au jour de la transfiguration. Quel dommage. Dans les églises orthodoxes russes, vous avez énormément de cathédrales de la transfiguration. Et de fait, c'est vraiment, vraiment un sommet de l'Évangile. À cause de cette théophanie trinitaire, à cause du fait que là, vraiment, le feu est arrivé et il va prendre sur nous. Un sommet parce qu'il y a eu des quantités de miracles, mais cette fois-ci, on voit bien que c'est le sommet des miracles, parce que c'est un miracle qui se passe dans sa chair à lui. C'est son visage, c'est ses vêtements, c'est son corps. Il est métamorphosé, dit le texte grec. On traduit par transfiguré. C'est plus que la figure, vous voyez. Enfin bon, voilà, totalement transformé et... par la lumière de Dieu. Et donc, c'est la première fois qu'on voit un miracle qu'il accomplit ou qui s'accomplit en lui. Et donc, de là, on est projeté au moment de sa passion, où tout l'amour de Dieu sera là. Et au moment de sa résurrection, on en comprend l'importance. On la comprend d'autant plus qu'arrivent Moïse et Élie. Donc, Moïse, c'est la loi, et Élie, c'est les prophètes. C'est le plus grand de tous les prophètes, Élie. Et donc, la loi et les prophètes viennent. Et Jésus, ai-je le droit de dire ça, je ne sais pas, mais peut-être que lui, il a peur devant cette mission, c'est pour ça que son visage s'est durci, et il sait ce qu'il attend, et alors Moïse et Élie viennent comme des grands frères en lui disant, mon cher, on a marché pour toi, quoi. Tout ce qu'on a fait, c'était pour ce moment-là, alors c'est pas le moment de faiblir, rassure-toi, nous sommes avec toi, nous t'accompagnons, tout le peuple juif dont lui, il est la gloire. Ce peuple élu dont il est le fleuron, si vous voulez, la gloire de notre peuple Israël, va entrer dans cette heure décisive et ils viennent là comme pour le renforcer, comme pour le conforter. Dans l'évangile de Saint-Luc, on nous dit de quoi il parle. Ici, non. On nous dit, il lui apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui, on ne dit pas le sujet de la conversation. Dans Luc, on le dit. Il parlait avec lui, attendez le mot, c'est assez surprenant, de son exode. Ah. C'est dommage que les traductions ne disent pas d'ailleurs, de son exode. L'exode, c'est quoi? C'est quand on était esclave et qu'on va marcher vers la terre promise. Ben oui. Donc l'exode, c'est ça. Nous sommes esclaves de nos péchés et au jour de la résurrection, il va nous libérer et nous faire entrer dans la terre promise de son royaume, de notre baptême, de la grâce et de notre liberté, c'est-à-dire de toute notre dignité humaine. Il parlait avec lui du salut du monde, tout simplement. Comme sortir de l'Égypte et de la captivité et entrer dans la terre promise, c'était l'exode, donc la libération du peuple juif. Nous, Jésus, dans sa passion, c'est notre propre libération. Une merveille, une splendeur. Vous savez, dans l'évangile, vous avez beaucoup de phrases qui ont plus ou moins d'intérêt. Quand le démon parle, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Quand Hérode parle, ça ne m'intéresse pas du tout. Ponce Pilate, très très médiocrement. Quand les apôtres parlent, c'est selon. C'est-à-dire qu'on voit bien que Saint-Pierre dit des merveilles, mais d'autres fois c'est un peu décevant. Ou tout à l'heure, je faisais allusion à Thomas, à Philippe, à Jude, qui disent, en fait, des niaiseries, mais qui sont des questions qui vont nous valoir des très bonnes réponses, donc c'est bien. Après, il y a les très saints, comme la Vierge Marie, Élisabeth, Jean-Baptiste. Alors ça, c'est très très beau, évidemment. Et le sommet, c'est les phrases de Jésus. Dans les phrases de Jésus, tout est bon, même ce qu'on fuit, comme je le disais à propos des paroles très difficiles. Il faut avoir le courage de les écouter, parce qu'avec lui, on est sûr que c'est 100% de l'amour, quoi. Mais les plus belles phrases, ce sont les phrases que Jésus, non pas nous dit dans son enseignement, mais qui dit à son Père. « Mon Père, je te rends grâce, car tu as caché cela aux sages et aux savants. Mon Père, je sais que tu m'écoutes toujours. » Vous savez, on va le voir quand il sera devant le tombeau de Lazare. Il remercie avant que Lazare soit ressuscité. Ça, c'est incroyable. « Tu m'écoutes toujours !» Et Lazare est encore dans son tombeau. Et il sortira. C'est prodigieux. Mais il y a une phrase encore plus belle. Alors ça, c'est très rare. Il n'y a que 3-4 fois dans l'Évangile. C'est une phrase qui tombe d'en haut sur lui. Et là, il y en a une aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils hésitent beaucoup à la traduire. « Alors, une voix se fit entendre, une voix disait de la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Tiens, c'est nouveau ça. Dans les nouvelles traductions, on nous met « en qui je trouve ma joie. » Avant, on disait « en lui, j'ai mis tout mon amour. » Et d'ailleurs, il faut aller regarder parce que l'expression n'est pas toujours la même dans les textes. 6 fois, on la voit au baptême. Et on la voit à la transfiguration. Et on voit que les traducteurs sont assez perturbés. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça va me permettre de terminer ma conférence de tout à l'heure en revenant au regard de Jésus. C'est un mot assez extraordinaire. Eudokia. C'est un mot que vous connaissez très bien. Vous savez, on chante à Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux âmes parce que l'amour de Dieu déferle sur eux. Ce qu'on traduisait par les hommes de bonne volonté. Traduction idiote, bien sûr, mais on fait ce qu'on peut avec les traductions. Et donc, on voit là l'amour de Dieu qui arrive. Paix sur la terre à vous, les hommes, parce que Dieu vous aime. Maintenant, c'est bien traduit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ah, il les aime. Il les aime tous. Il les aime toujours. Il les aimera toujours. Son amour sera victorieux. L'amour de Dieu arrive et déferle sur le monde. Et Dieu nous dit, tout l'amour que je vous destine est là, en lui. Regardez, alors maintenant, ne le quittez plus jamais des yeux. Regardez-le toujours, parce qu'en lui, j'ai mis tout mon amour. En lui, je trouve ma joie. C'est vrai aussi. Mais ça ne dit pas la totalité de cela. Ce mot-là, ce mot qui est si important dans l'Évangile, il est en fait la plus grande preuve de sa miséricorde. On a l'impression, après l'année de la miséricorde, finalement, on en avait tellement parlé qu'à la fin, j'ai fini par me la représenter comme une cascade, un fleuve, si vous voulez, un torrent d'amour qui descend du ciel sur la terre, pour irriguer, pour rénover, pour purifier, pour redonner vie, etc. Et tout se trouve en Jésus. Voilà. En lui, j'ai mis la totalité de ma miséricorde et de mon amour. Et c'est là que toute la terre va pouvoir renaître. C'est d'une certaine manière Jésus, trésor de sa miséricorde. Eh bien, vous savez qu'un jour, c'est pour ça que je veux terminer et l'homélie et la conférence de tout à l'heure par cela, c'est à mon avis le plus beau regard de Jésus. Je vous disais à la fin, demandez-lui qu'il nous guérisse de nos cécités, que nous arrivions à voir ce que personne ne voit. Et il y a une chose que lui, il voit, pour moi c'est un sommet vraiment dans l'Évangile, ce moment où on le voit exploser de joie. Les apôtres étaient venus pour raconter leur campagne, leur petit succès à 4 sous, on a chassé des démons, des très forts. Or Jésus les calme un peu en leur disant, arrêtez de vous vanter, ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé 3-4 démons, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et le texte dit, à cet instant, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit-Saint. Donc là, je suis sûr que ça va être une joie très 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 belle, très pure évidemment. À cet instant, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit-Saint, il explose vraiment, il dit, mon Père, je te rends grâce car tu as caché cela aux sages et aux savants, tu l'as révélé à des tout-petits. Oui, c'est la seule fois de l'Évangile où Jésus dit oui, à son Père en plus. C'est quand même bien ça. Pour vous qui êtes mariés, pour moi qui suis prêtre, si je pouvais mettre mon oui dans le sien, le oui dans mon oui, mon pauvre petit oui, hein, qui vaut ce qu'il vaut, dans son oui à lui, le seul endroit de l'Évangile où Jésus dit oui, c'est de l'or en barre, évidemment. Oui, Père, voilà ton amour qui déferle sur le monde. Voilà. Autrement dit, ce que Dieu dit au sommet de la transfiguration, un jour, lui, il le voit tout le temps, mais un jour, il nous le dit. Et pour moi, cet évangile, donc, auquel je fais allusion, Luc 10, 21, ou celui de la transfiguration, voilà, c'est vraiment un sommet. On peut dire qu'aujourd'hui, il nous a emmenés sur un beau sommet.